France Culture.
Et le journal est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des ONG dénoncent un massacre en cours en Iran où la répression des autorités face à la contestation populaire s'accentue, faisant de nombreuses victimes d'après les premiers témoignages. Nous reviendrons sur cette annonce de la ministre de l'Agriculture concernant l'augmentation du nombre de loups pouvant être tués. Une réponse à une demande forte des éleveurs mais qui scandalise les défenseurs de la biodiversité. Et puis nous parlerons de l'industrie musicale et de gros sous alors que le géant américain Live Nation s'offre la plus grande salle de concert couverte d'Europe, Paris La Défense Arena. Notre invité est Loïc Riom, sociologue de la musique. Combien de morts, combien de blessés et de manifestants interpellés en Iran? Deux semaines après le début d'une nouvelle contestation initialement liée au coût de la vie, la police iranienne annonce d'importantes arrestations à travers le pays, coupées du monde en raison de la suspension d'Internet et des communications depuis plus de 60 heures. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir, notamment à Téhéran. Des manifestations fortement réprimées, l'ONG Iran Human Rights parle d'au moins 192 manifestants tués en 15 jours. Dans ce contexte, la tension s'accroît avec les États-Unis qui menacent d'intervenir. Étienne Monin.
L'information filtre au compte-gouttes. Le régime a maintenu le huis clos. Quelques vidéos ont tout de même été diffusées. Elles viennent essentiellement des grandes villes, là où certains habitants peuvent contourner le blackout grâce au système Starlink d'Elon Musk. On voit donc un incendie sur le bord de route dans la grande ville de Mashhad, au nord-est du pays. Il y a eu des rassemblements dispersés également dans les quartiers de Téhéran qui ont été survolés par des drones. Mais d'après l'ONG Human Rights Activist in Iran, le nombre de villes mobilisées a baissé à cause des difficultés de communication. D'après cette organisation, le bilan est de 116 morts, parmi lesquels 37 membres des forces de sécurité. C'est sans doute un bilan largement sous-évalué. Dans une vidéo, on peut voir des dizaines de corps dans une morgue artisanale au sud de Téhéran. Depuis hier, le ton est aussi monté avec les États-Unis. Donald Trump a écrit hier qu'il était prêt à aider. D'après la presse américaine, le président a de nouvelles options de frappe militaire en Iran sur son bureau. Israël s'est placé en état d'alerte maximale. Le président du Parlement iranien a menacé le pays et les installations militaires et navales américaines en cas d'attaque des États-Unis.
Étienne Monin, alors s'il est compliqué d'obtenir des informations vérifiées émanant d'Iran où la répression des autorités se fait à huis clos, les ONG recueillant des témoignages évoquent des centaines de manifestants tués, des hôpitaux débordés et alertent sur un massacre en cours. La journaliste du Monde, Razal Golshiri, interrogée par nos confrères de France Inter ce matin, relate les témoignages qui lui sont parvenus.
On a des bribes d'informations qui nous parviennent, surtout sur la répression. Donc par exemple, moi j'ai des bribes que j'ai, viennent des hôpitaux, des cliniques, des gens qui ont perdu un proche. Et en fait, quand je regarde ça, et l'ordre de grandeur des chiffres qui m'arrivent me laisse penser qu'on est déjà à des centaines, voire des milliers de victimes. Dernier chiffre qui a été donné par les organisations de défense des droits humains, on est à 116. Moi, ce qui me permet de dire que c'est beaucoup plus...
Oui, vous parlez d'une répression sanglante à huis clos.
Exactement, exactement. Sans précédent.
Comment vous le mesurez ça? C'est avec votre contact dans les hôpitaux?
C'est ça. Et des hôpitaux, des gens qui sont allés, par exemple, hier matin dans la morgue, une grande morgue dans le sud de Téhéran, pour récupérer les dépouilles de leurs proches. Et j'ai deux témoignages concordants de deux personnes qui m'ont dit « On a vu des centaines, voire des milliers de dépouilles drapées dans les sacs mortuaires noirs. » Encore une fois, l'ordre de grandeur et la consistance des informations qui me parviennent me laissent dire qu'on est à des centaines, voire à des milliers de victimes.
La journaliste Razal Golshiri et Israël dit à l'instant soutenir la lutte du peuple iranien pour la liberté. Des manifestations nombreuses également aux États-Unis ce week-end contre les méthodes de l'ICE, la police fédérale de l'immigration, après la mort de René Good, tué par un agent lors d'une intervention mercredi à Minneapolis. Le gouvernement américain parle d'un tir de légitime défense malgré plusieurs vidéos prises par des témoins montrant que le policier fédéral n'est pas réellement menacé. Les États-Unis, qui ont mené hier d'importantes frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie, en représailles à la mort de deux de leurs soldats et d'un interprète civil américain, tué lors d'une attaque terroriste dans le pays le 13 décembre dernier. Les précisions d'Omar Waman.
Ce sont des frappes de grande ampleur que les États-Unis ont menées contre le groupe État islamique, les plus importantes depuis la chute du régime de Bachar el-Assad il y a un an. Environ 20 avions de chasse, dont des F-15 et des drones, appuyés par des chasseurs jordaniens, ont visé au moins 35 cibles, largué plus de 90 bombes et missiles. Leur objectif, des dépôts d'armes, des routes d'approvisionnement, ainsi que des infrastructures utilisées par le mouvement djihadiste. Ces bombardements sont une réponse à la promesse de Donald Trump de frapper durement le mouvement terroriste après la mort le mois dernier de deux soldats américains ainsi qu'un interprète civil dans la région de Palmyre, attaque attribuée à Daesh. Washington affirme vouloir empêcher l'État islamique de se réorganiser alors que le groupe reste très actif malgré la perte de ses territoires. Les autorités américaines redoutent notamment une tentative de libération des combattants membres du groupe djihadiste, près de 10 000 encore détenus dans les prisons contrôlées par les forces kurdes dans le nord-est syrien.
Les actions des agriculteurs se poursuivent ce week-end, notamment au port du Havre, où une centaine d'agriculteurs a mis en place un barrage filtrant pour contrôler les camions afin de dénoncer l'accord de libre-échange signé entre la Commission européenne et les pays du Mercosur. Et la contestation agricole persiste aussi face à la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire. Et ce, malgré les annonces de la ministre de l'Agriculture vendredi, portant notamment sur le doublement à 22 millions d'euros du fonds d'indemnisation pour les éleveurs touchés par la DNC. Annie Genevard, qui a également annoncé une augmentation de 10% du nombre de loups pouvant être tués chaque année. Bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour.
Il faut mieux réguler, car d'après la ministre, la population de loups s'étend en France.
Oui, une population estimée à 1082 animaux en 2025, un chiffre attesté par l'Office français de la biodiversité dans une étude menée avec le CNRS. Et là où la ministre affirme que les loups se multiplient, cette étude conclut plutôt à une tendance à la stabilisation. Avec cette augmentation de 10%, le nombre de loups abattus par an se situerait autour de 250. Annie Genevard entend répondre aux attaques de loups, plus de 4000 en 2025. Mais cette réponse n'est pas appropriée, juge le géographe spécialiste des loups Farid Benhamou.
Même si la population tend à diminuer, il y a toujours des loups géographiquement en expansion. Et d'ailleurs, ça peut être un effet des tirs, puisque ça éclate la population de loups. Et ce sont ces loups-là, particulièrement, qui peuvent commettre pas mal de dégâts. D'où l'intérêt de mettre le paquet sur les moyens de protection. Quand on laisse faire les éleveurs, quand on leur donne les moyens, eh ben ils y arrivent très bien.
Des tirs pour effrayer les loups aux chiens de protection. Les moyens de prévention sont nombreux, appuie Thierry Ruff, membre de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Pour lui, l'annonce de la ministre est de la pure démagogie.
Ce qui nous scandalise, c'est que c'est le ministre de l'Agriculture qui gère en France la biodiversité. Donc c'est un outil politique aujourd'hui, le loup. Et là, on s'y attendait. On s'attendait qu'avec les revendications de certains syndicats, le loup allait être la variable d'ajustement. Enfin, je suis désolé de dire ça, c'est pas le loup qui est allé signer les accords du Mercosur. C'est pas le loup qui réintroduit les pesticides. Voilà.
Et il ajoute que cette annonce va à l'encontre de la législation française et européenne, le loup étant toujours considéré comme une espèce protégée. Et
les explications de Jeanne Serrin pour France Culture. Alors cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, auquel la Commission européenne a donné son feu vert vendredi, vaut au gouvernement deux motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national. Elles seront examinées mardi et mercredi à l'Assemblée. Mais le député socialiste et ancien chef de l'État François Hollande assure aujourd'hui qu'il ne les votera pas. Elles sont inappropriées et montrent un jeu politique, justifie-t-il. Tandis que le chef du gouvernement Sébastien Lecornu agite lui le spectre de législatives anticipées, demandant au ministre de l'Intérieur de préparer l'organisation d'éventuelles élections en même temps que les municipales en mars prochain. C'est le leader mondial de la production de concerts et de billetterie. Le groupe américain Live Nation rachète Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe à Nanterre et jusqu'ici propriété de l'homme d'affaires Jackie Lorenzetti. Bonjour Loïc Riom.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la musique, chargé de cours à l'Université de Lausanne. Alors ce rachat doit encore être validé par l'autorité de la concurrence, mais est-ce que cette opération vous surprend ?
Non, pas tellement, puisque c'est une stratégie de cette entreprise, Live Nation, depuis plusieurs années, qui est de racheter différentes structures, à la fois des salles de concert comme celle-ci, mais aussi des festivals et aussi des entreprises de production de concerts autour du monde, hein, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays européens et partout dans différents pays.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe américain, Live Nation, qu'on présente comme le leader mondial de la production de concerts? Quelles sont ses ambitions?
Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, c'est le leader, c'est l'entreprise qui a le marché le plus important. C'est une entreprise qui est née au début des années 2000, qui était d'abord une entreprise de production de concerts et qui ensuite peu à peu racheté des salles de concerts d'abord aux États-Unis, puis dans d'autres pays, et qui ensuite eu un tournant en 2009 avec la fusion d'une autre entreprise qui s'appelle Ticketmaster et qu'on connaît parce que c'est aussi une des plus grandes billetteries en ligne. Et à partir de là, cette entreprise s'est vraiment imposée comme le leader avec une stratégie d'intégration donc qui a été de racheter l'ensemble de la chaîne de production de concerts, non seulement des entreprises de management et de production, mais également la billetterie, des salles, des festivals. Et qui s'est peu importe comme ça imposée comme le leader, et d'une certaine manière on peut raconter la transformation de l'industrie du concert à travers cette expansion de cette entreprise-là.
Et justement, Live Nation et Ticketmaster font l'objet aux États-Unis de plusieurs poursuites en justice pour pratiques commerciales trompeuses.
Oui. Alors, il y a différentes polémiques autour de ces entreprises. Notamment, c'est des entreprises qui ont beaucoup développé ce qu'on appelle le dynamic pricing, donc des mécanismes de vente de tickets qui visent des formes d'enchères et qui ont été beaucoup critiquées pour cela. Et puis aussi, qui sont présentées comme un monopole, donc avec plusieurs enquêtes qui ont été menées pour savoir si effectivement il y avait des abus de position dominante.
Alors, le montant de l'offre proposée par Live Nation pour acquérir la Défense Arena n'a pas été dévoilé, mais certains médias évoquent 600 millions d'euros. Est-ce que c'est pas un peu la folie des grandeurs ?
Bah, c'est clair que c'est vraiment cette stratégie. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, qui a une puissance financière énorme et qui, en fait, par ses effets d'échelle, de pouvoir proposer aux artistes de diffuser leurs concerts autour de la planète avec des gains d'échelle importants, qui en fait a les moyens de faire ces investissements-là, ce qui inquiète une partie du secteur qui voit des artistes qui ne travaillent plus qu'avec ces grandes entreprises et une forme de segmentation du marché qui se crée à partir de là.
Et à quelles répercussions faut-il s'attendre aussi sur les prix des concerts ?
Alors, j'en ai un peu parlé avec les polémiques qu'il y a autour de ces nouvelles formes de billetterie. On voit depuis plusieurs années, c'est très bien documenté, qu'il y a une augmentation du prix des tickets de concert, notamment pour ces grands concerts dans ces arénas, avec aussi des moyens qui sont de plus en plus importants mis dans la production, les décors, l'ensemble de ce qui en fait le show. Et je pense que voilà, on est en train d'avoir un marché qui a évolué de ce point de vue-là. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des festivals et maintenant, c'est vraiment ces concerts dans ces arénas, ces grandes salles de 20 000, 40 000, voire plus de places qui deviennent le centre économique de ce marché et qui poussent aussi les prix vers le haut.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Laurie Crium. Je rappelle que vous êtes sociologue de la musique et chargée de cours à l'Université de Lausanne. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Alors, lui ne s'est pas encore produit à Paris La Défense Arena, mais a déjà fait deux stades de France. Le rappeur Ninho a investi depuis jeudi le Grand Palais immersif dans la capitale à l'occasion de la sortie de Mills 4, sa nouvelle mixtape. Une expérience musicale dans un lieu culturel après près de 2 ans d'absence et une stratégie artistique fréquente dans le milieu du rap. Marion Ferrer.
Avant l'exposition de Ninho au Grand Palais Immersif, il y a eu en effet des précédents, d'autres collaborations entre rappeurs et milieux de l'art. L'année dernière, par exemple, un film a été consacré au Marseillais Jul. En 2021, c'était une série documentaire sur Aurel San. Une dynamique qui a débuté dans les années 2010, selon Marie-Sonnette Manougian, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Nanterre.
Le rap doit probablement son succès au fait qu'il a su se diversifier et su prendre les transformations du monde de la culture extrêmement tôt, notamment dans les années 2000, au début de la crise du disque, une culture qu'on peut appeler transmédiatique, c'est-à-dire que l'œuvre ne passe plus uniquement par le son, mais va passer par tout un univers autour de ça.
Une stratégie artistique qui permet aux artistes de doper leurs ventes, de mettre en lumière la sortie de leurs nouveaux albums et surtout de se démarquer.
Là où la concurrence est très rude, puisque c'est une des musiques pour lesquelles il y a le plus de nouveaux artistes et de nouveaux prétendants tous les ans à entrer sur le marché.
Des expositions, des performances qui répondent également aux codes des plus jeunes.
Avec des expériences immersives, didactiques, très instagrammables.
Point que les musées et institutions culturelles ont bien compris.
On parle de 80% des moins de 25 ans qui aujourd'hui disent écouter du rap, qui est la musique la plus streamée, au plus grand succès commercial.
Le pari de Ninho est en tout cas un succès. Tous les billets disponibles ce week-end pour son exposition ont été vendus.
J'ai toujours rêvé d'être dans le top, soir face à la jambe.
Marion Ferrer pour France Culture. La météo cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest, tandis que le temps restera gris et sec sur le nord-est et le centre et sera plus lumineux du sud-ouest aux régions méditerranéennes. Comptez 0 à 4 degrés sur le Grand Est et 10 à 14 degrés sur la façade ouest et en bordure de Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Anthony Thomasson à la technique.